Bible pour lire deux courts passages dans l'évangile de Marc, le premier au chapitre 9, à partir du verset 33. Évangile de Marc, chapitre 9, verset 33. Ils arrivèrent à Capernaum, et lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda : De quoi discutiez-vous en chemin ? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12, et leur dit : Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit : Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Le deuxième passage est dans le même évangile, un peu plus loin, au chapitre 10. Chapitre 10, le verset 13. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Je voudrais intituler les quelques pensées que je voudrais développer ce soir, les leçons d'un petit enfant. Je voudrais simplement commencer ma courte méditation par vous rapporter le témoignage suivant d'un chrétien qui se trouvait dans le couloir de la maternité, dans laquelle, à peine quelques instants au préalable, eh bien, son premier-né venait de paraître dans le monde. Mais il ne l'avait encore pas vu, et comme cela est normal, il était particulièrement pensif et se demandait comment il allait réagir lorsqu'il verrait son enfant pour la première fois. Et il se demandait : est-ce que je vais pleurer de joie ? Est-ce que je vais rire d'une manière nerveuse ? Et tandis qu'il était livré à ses pensées, préoccupé par tout cela, la porte de la chambre s'est ouverte et une infirmière est apparue avec un précieux paquet, vous devinez, dans ses bras, et elle a posé la question : c'est vous le papa ? Et bien sûr, il a dit oui, et elle lui a remis le trésor. Et ce papa, en recevant ce petit bébé dans ses bras, n'a pas eu la réaction nerveuse qu'il escomptait, mais il a observé ce frêle enfant, sa fragilité et son entière dépendance. Et quand il a vu ce tout petit bébé, il a dit : mais dire que Jésus, notre Sauveur, a été comme ça. Et il a pensé d'un seul coup à cette humiliation, car le Verbe divin s'est fait tout petit enfant pour pouvoir apporter à ce monde, eh bien, le salut, la délivrance, et c'est ce dont nous croyons et qui est un bénéfice pour chacun d'entre nous. Alors le papa a oublié tout ce qu'il pensait au préalable et il a fait monter vers le Seigneur une prière de reconnaissance et il a fait une promesse. Et il a dit, Père, je te promets d'être sur la terre l'image de ta paternité divine. Et il a pris conscience que finalement, ce que Dieu avait fait pour les êtres humains en s'abaissant de cette manière-là, eh bien, lui, il voulait aussi en donner le témoignage, l'exemple pour son propre fils, pour les temps à venir. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui nous interpelle. Voyez, le texte que nous venons de lire ensemble dans la parole du Seigneur est situé dans un contexte qui est très particulier. Les disciples venaient de connaître un échec puisque Pierre, Jacques et Jean étaient montés avec Jésus sur la montagne de la Transfiguration et les 9 autres étaient restés dans la vallée. Et tandis que Jésus était là, manifestant sa gloire, sa majesté divine, aux yeux de ceux qu'il avait amenés avec lui, les 3 disciples que je viens de citer, les autres dans la vallée ont été confrontés à un véritable problème. Et la parole de Dieu nous rapporte qu'un papa s'était approché d'eux avec un enfant qui était possédé d'un esprit muet, mais qui l'agitait très violemment, souvent, et le projetait ou dans l'eau ou dans le feu. Et le papa était très malheureux dans cette situation-là. Donc il avait demandé aux disciples de faire quelque chose pour lui, mais la Bible nous dit qu'il n'avait pu rien faire. Jésus redescend donc avec les 3 autres, et puis il voit la foule qui est rassemblée là, qui discute avec ses disciples, et il ose poser une question. Vous savez, les questions que pose Jésus, surtout de cette teneur-là, sont particulières, parce que nous savons tous, autant que nous sommes ici ce soir, que Jésus sait parfaitement tout ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et il n'a pas besoin que l'on rende témoignage de qui que ce soit, parce qu'il sait parfaitement ce qui se passe dans le cœur. Alors il savait très certainement de quoi les disciples discutaient avec la foule, mais alors qu'il pose la question, le papa intervient et il dit, « Eh bien voilà, j'ai amené mon fils qui a tel problème et ils n'ont pu rien faire. » Et il a ajouté simplement, « Si tu peux faire quelque chose, alors aie compassion de nous, sois miséricordieux. » Et Jésus a relevé la question et il a dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et il a inviter l'enfant justement à venir près de lui, et tandis qu'il venait, il a été agité par le démon, mais Jésus a prié, a chassé le démon, et ce garçon a été entièrement délivré par sa puissance. Les disciples ont alors posé la question, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu accomplir ce miracle-là? Et vous connaissez la réponse. Jésus a dit, cette sorte de démon-là ne peut sortir que par la prière. Dans un autre évangile, il est dit, par la prière et le jeûne. Bien sûr, nous savons que les disciples avaient l'habitude de prier. Mais permettez-moi de dire de cette manière-là, il y a prière et prière. Il y a la prière qui est faite, je dirais, d'une manière systématique, rituelle, sans vraiment qu'il y ait la plénitude de la foi, la conviction, la certitude que Dieu peut faire quelque chose. Et puis la prière qui est vraiment l'expression d'une foi certaine, d'une foi sûre, Nous savons qu'il est écrit dans la Bible que tout est possible à celui qui croit, et nous avons intérêt, quand nous prions, à ne pas faire sortir machinalement de notre bouche quelques paroles qui sont bien souvent des répétitions de ce que nous avons l'habitude de dire au Seigneur, mais vraiment, vraiment avec le cœur, du fond de nous-mêmes, invoquer le nom du Seigneur. La Bible dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras ». C'est certainement ce qui avait manqué à ses disciples pour cette situation-là. Mais n'empêche que Jésus a continué son circuit avec les disciples. La Bible dit qu'ils ont traversé la Galilée, et en traversant la Galilée, Jésus a dit tout ce qu'il allait connaître. Et il leur a dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir. Et trois jours après, il aura été mis à mort, il ressuscitera. Et la Bible dit, les disciples ne comprenaient pas ce qu'il disait. Mais quand même, ils avaient entendu que Jésus annonçait sa mort prochaine. Et tout en cheminant, eh bien, Jésus marchait devant et eux, entre eux, discutaient. Je viens de vous parler d'un échec qu'ils avaient subi. Je viens de vous dire qu'ils ont entendu Jésus parler de sa mort prochaine. Et eux, ils parlent. Mais ils parlent de quoi? Ils sont en train de parler « Qui parmi nous est le plus grand ?» Vous vous rendez compte si c'était un sujet intéressant? Et Jésus, arrivé précisément à Capernaum, il rentre dans la maison et d'un seul coup, à brûle-pourpoint comme ça, Jésus leur pose encore la question. De quoi discutiez-vous en chemin? Dites, mes frères et sœurs, encore une fois, ne croyez-vous pas que Jésus savait ce dont ils avaient discuté en chemin? Bien sûr qu'il le savait. Mais il voulait les amener à prendre conscience de leur turpitude, de leur stupidité, à prendre conscience aussi de leur orgueil. Et après qu'il a posé cette question, il les a observés, mais il n'y a personne qui a répondu. Et je dirais que ce silence qu'ils ont gardé, eh bien, était dans le fond quelque chose qui parlait encore plus que s'ils avaient ouvert la bouche. Là, ils sentaient leur honte. Ils étaient en train de prendre conscience qu'ils avaient commis une erreur. Et Jésus, alors, s'est assis. Il appela les 12 et en réponse à ce qu'ils venaient de discuter, il leur dit tout simplement, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Il y a là quand même quelque chose qui est très important. La notion de ce monde, les critères de ce monde, les normes de ce monde n'ont absolument rien à voir avec les critères du Seigneur Jésus. Dans ce monde, eh bien, vous le savez, la société actuelle nous éduque pour une compétition cruelle et agressive. Et d'une manière constante, permanente, eh bien, on cherche à être le meilleur, le plus grand, le plus fort, à écraser aussi l'autre sans aucun scrupule. Il y a effectivement dans le cœur des hommes cette notion que pour être le plus fort et le plus grand, eh bien, il faut éliminer aussi les autres, autant que cela est possible. Et bien sûr, dans l'exemple que Jésus utilise, il y a deux mots qui sont très importants. Il dit « dernier » et « serviteur de tous ». Dernier, dans la bouche du Seigneur, qu'est-ce que cela représente? Les premiers ne sont pas du tout ceux qui imposent leur autorité aux autres. Les premiers ne sont pas du tout ceux qui, justement, se font servir par les autres. Mais les premiers, aux yeux du Seigneur, ce sont ceux qui se mettent au service d'autrui. C'est ce que nous avons à faire les uns par rapport aux autres, ce que nous avons souligné dans une certaine mesure déjà dimanche matin. Et le vrai christianisme, eh bien, je pourrais dire qu'il a trois branches particulières. Première branche, servir Dieu dans l'adoration. Nous devons être des adorateurs en esprit et en vérité. Deuxième branche, après avoir servi Dieu et recevoir de lui tout ce dont nous avons besoin pour nous et pour les autres, alors il faut servir les autres. Et troisièmement, agir dans le monde au nom de Jésus. Et il y a quand même quelques versets que nous retrouvons, notamment dans l'évangile de Matthieu, par exemple au chapitre 19 et au verset 30, où Jésus s'exprime en ces termes et il dit « Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. » Et dans le même évangile, au chapitre 20, au verset 16, il dit « Ainsi, le dernier ou les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Quand je réfléchis à cela, c'est quand même assez difficile à comprendre. Eh bien, je me dis, alors Jésus met en évidence que pour lui, il y a ex aequo. Réfléchissez. Si les premiers sont les derniers, les premiers, ça veut dire qu'ils sont à égalité. Dieu voit les choses de cette manière-là. Mais il est dit aussi dans le même évangile, le plus grand parmi vous, ce sera le serviteur des autres. Et il ajoute, quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Nous avons donc là, au travers de ce message du Seigneur, quelque chose d'important à serrer dans notre cœur et qui nous permettra d'être précisément un moyen de bénédiction si nous mettons en pratique ce que nous comprenons de la parole du Seigneur. Maintenant, Jésus est allé un peu plus loin et il a réagi notamment quand il a vu les disciples, eh bien, refuser que des enfants s'approchent de lui. Pourtant, il leur avait enseigné, si vous ne devenez comme un petit enfant, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Je vais dire dans un instant que cela n'équivaut pas à ce fait que nous pourrions prendre en considération et en nous demandant, mais alors le Seigneur, est-ce qu'il veut nous rendre irresponsables? Est-ce qu'il ne veut pas que nous soyons matures? Puisqu'il faut devenir comme un petit enfant, c'est pas du tout cela que le Seigneur enseigne. Nous allons voir juste dans un instant ce qu'il veut enseigner. Mais ici, il est indigné parce que après avoir reçu cette leçon, les disciples eux-mêmes refusent l'accès aux enfants auprès du maître. Et il leur a dit, mais laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas. Parce qu'il dit le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Alors je reviens à la question de tout à l'heure. Y a-t-il dans la bouche du Seigneur un enseignement pour nous orienter vers l'immaturité, nous orienter vers le manque de responsabilité? Y aurait-il une contradiction avec ce que nous découvrons un peu plus loin dans l'Écriture et notamment dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, quand il enseigne la chose suivante. Quand j'étais un enfant, eh bien, je m'occupais des choses qui appartiennent aux enfants, mais quand je suis devenu adulte, eh bien, j'ai laissé de côté ce qui appartenait à l'enfance et maintenant, eh bien, je prends en considération les choses plus importantes, les valeurs spirituelles. Alors pourquoi, d'un côté, Jésus dit, il faut devenir comme un enfant, et de l'autre côté, Paul dit, il faut laisser les choses de l'enfant. Eh bien, parce que les deux enseignent deux choses différentes. Le premier, eh bien, il est en train de nous montrer ce qui est important et notre responsabilité vis-à-vis de Dieu. C'est là la croissance dans le domaine spirituel. Tandis que Jésus enseigne la manière dont nous devons nous approcher de lui. Nous sommes bien souvent trop compliqués. Finalement, qu'est-ce qu'il a voulu enseigner à ses disciples? Eh bien, par votre despotisme religieux, votre autorité religieuse, avec cette sorte de légalisme qui est encore en vous, eh bien, vous empêchez ces humbles petits de s'approcher de moi. Finalement, s'approcher de moi, ça se fait d'une manière beaucoup plus simple que ça. Et vous savez, mes frères et sœurs, je crois que nous avons besoin de comprendre que finalement, s'approcher du Seigneur, c'est comme un enfant qui croit simplement, qui accepte simplement. Et nous allons voir quelques caractéristiques d'un enfant, sa manière d'être, son comportement. Puis en faisant une comparaison sur le plan spirituel, nous pourrons réaliser alors combien nous avons besoin de rejeter tout ce qui est, je dirais, fastidieux, religieux, vraiment qui nous embarrasse, qui est là comme nous paralysant, nous empêchant d'être simples. Parce que finalement, la marche avec le Seigneur, c'est une marche simple, une marche facile. Si nous avons un cœur bien disposé, eh bien, l'Esprit de Dieu peut nous conduire d'une façon admirable, où nous goûtons alors à tous les bienfaits de sa présence et nous recevons ses plus riches et ses plus grandes bénédictions. Alors, j'ai noté quelques comportements d'enfants. Vous savez, l'enfant, quand il considère son papa, eh bien, il peut penser que c'est l'autorité maximum, maxi, dans laquelle il peut se confier. Et finalement, il est aussi capable d'avoir un désir, c'est d'imiter son papa. Est-ce que vous avez jamais entendu des enfants parler entre eux? Moi, ça m'est arrivé d'entendre un petit enfant dire à l'autre, « Ah non, 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 moi je sais que ce que mon papa a dit, c'est vrai. » L'autre disait, « Mais tout ça que tu me racontes, c'est pas vrai. » Mais lui, il a dit, « Non, mon papa a dit. » Alors, puisque mon papa a dit, c'est vrai. Vous savez, c'est aussi simple que cela. Notre papa a dit. Dieu a dit. Dieu a parlé. Et tout ce qu'il a dit se trouve consigné ici, dans ce livre. Et ce qui est dit ici, nous devons le croire. Et nous devons le mettre en pratique. C'est aussi simple que cela. Et finalement, nous sommes bien souvent trop compliqués. Nous cherchons des excuses. Nous sommes passés maîtres même dans l'art de trouver des excuses pour passer à côté de l'obéissance simple que nous devons au Seigneur. Dieu parle, notre Père parle, et il nous dit des choses. Eh bien, si nous considérons qu'il est notre Père comme un enfant, croit ce que son Père dit, nous devons croire et obéir à notre Dieu. L'enfant, il est aussi capable parfois de se rendre compte de certains dangers. Peut-être pas toujours, mais je vais partager avec vous une certaine expérience. Je me rappelle plus lequel de mes enfants, comme il y en a ici, je fais attention à ce que je dis, hein, mais lequel de mes enfants, un jour m'a dit, « Ah, mais moi je suis grand, j'ai pas besoin que tu me donnes la main. » Vous savez, ça c'est propre à chacun. On connaît bien cela, hein. Pendant qu'on est tout petit, on aime bien donner la main au papa, mais quand on arrive à un certain stade, non, je ne me donne plus la main. Sauf que, en voulant marcher comme ça, comme un petit bonhomme, à l'horizon s'est pointé un chien. Et quand le petit bonhomme a vu le chien, alors bien vite, il a dit « Papa, papa !» Et il est revenu vers son papa. Nous, nous avons un refuge éternel, une haute retraite, Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et s'y trouve en sécurité. Voyez nos réunions de prière, c'est ça. C'est le refuge auprès de notre Père. Nous, tous les jours qui passent, eh bien, nous avons à être confrontés à des choses qui nous blessent, qui nous font mal dans ce monde, comme quelqu'un le disait tout à l'heure dans la prière. Il n'y a que des choses affreuses, désastreuses, et nous voyons de plus en plus comment le monde s'éloigne de tout ce que le Seigneur nous a enseigné, parce que le monde est sous la domination de Satan, et Satan fait tout pour contrecarrer tout ce que notre Père Céleste a dit, et tous les plans de Dieu. Alors donc, nous avons un refuge auprès de notre Père, et nous pouvons invoquer son nom, et trouver auprès de lui tout ce dont nous avons besoin pour faire face à toutes les situations. Il veille sur nous, et il peut nous garder. Le petit enfant ne se préoccupe pas de savoir ce qu'il va manger, comment il va être vêtu, et surtout pas comment il faut payer les dettes. Un petit enfant ne se préoccupe pas de ça. Il vient tranquillement, il est dans la maison, et il a une absolue confiance. D'ailleurs, il ne sait peut-être même pas que ses parents ont des dettes. Il ne s'en préoccupe pas. Mais il sait quand même que la table sera dressée, qu'il va manger, qu'il aura tout ce qu'il faut, même pour être habillé. Je suis en train de parler dans le cadre d'une famille normale. Parce que malheureusement, il y a des familles qui ne le sont plus. Mais dans le cadre d'une famille normale, le petit enfant, il se sent en sécurité. Et tout simplement, il sait que tout est à sa disposition parce que ses parents veillent sur lui. Mais vous savez, frères et sœurs, quand même formidable de découvrir dans la Bible que notre Dieu veille sur nous. Quelquefois, nous sommes préoccupés. De quoi est-ce que nous allons être vêtus? Comment nous allons pouvoir faire face au futur? Vous savez que Jésus a parlé très clairement à ce niveau-là. Et il a dit que chaque jour suffit sa peine. Et il a dit, le Seigneur est celui qui veille sur nous. Ça n'enlève pas notre responsabilité. Il y a des choses que nous devons faire. C'est sûr que nous avons à faire face à certaines responsabilités. Mais même quand nous avons tout fait et que nous nous trouvons quand même face à des situations qui nous dépassent, là où nous ne pouvons plus, le Seigneur est là. Et si vous vous retournez, mes chers frères et sœurs, qui que vous soyez ce soir, et que vous regardez en arrière, vous allez vous rendre compte du nombre de fois où vous avez dit dans certaines situations, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais pourtant, vous en êtes sorti. Et aujourd'hui, vous êtes là, conscient que le Seigneur a fait pour vous des choses étonnantes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tous les cas, moi, aujourd'hui, je peux dire, Dieu a été fidèle. Il ne nous a jamais fait défaut. Et il ne fera jamais défaut à quiconque se confie en lui, parce que c'est un tendre Père qui est plein de miséricorde et plein de compassion. Mais je voudrais dire, pour laisser de côté ce qu'un enfant a comme confiance, je voudrais vous dire aussi qu'il y a des fois où un petit enfant, il est débordant d'affection. J'espère que les papas qui sont ici ont pu entendre parfois leur enfant leur dire « Ah, mon papa chéri !» Ça fait plaisir, n'est-ce pas ?« Mon papa chéri !» Parce que le petit enfant, il réalise d'un seul coup l'amour dont il est entouré. Et finalement, il n'y a rien de plus beau qu'un tout petit enfant qui vous caresse, qui est là, qui est plein d'affection, débordant justement d'amour. Mais je suis en train de me dire, notre Père, il aime aussi entendre ses enfants, lui apporter la louange et la reconnaissance de leur cœur. Vous savez, notre Dieu nous aime. Et si nous pouvons dire que nous aimons, c'est parce que lui nous a aimés le premier. Et en retour, eh bien, chaque jour, nous devrions penser à dire au Seigneur combien nous l'aimons, pas seulement à cause de tout ce que nous avons reçu de lui, et nous avons reçu énormément, mais aussi simplement par ce qu'il est, notre Dieu, notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Et il attend bien souvent de la part de ses enfants seuls. Je vais terminer dans un instant, parce que je ne veux pas être trop long, et laisser aussi la possibilité à quelques-uns encore de prier. Mais il y a un autre aspect, et l'autre aspect c'est celui-ci. Comment Dieu fait concourir à notre bien les diverses épreuves par lesquelles nous pouvons traverser. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, met en relief quelque chose qui ne nous fait pas crier souvent « Alléluia ». C'est quand il est dit que parce que Dieu nous aime, il nous châtie. Alors au lieu de crier « Alléluia », les chrétiens, là, ils disent « Aïe, aïe, aïe ». Et c'est vrai que le Seigneur est obligé de nous discipliner, comme justement un père discipline son enfant. J'ai dans l'Écriture des versets qui sont assez frappants. On ne prête pas toujours attention à cela. Par exemple, dans le livre des Proverbes, il y a un passage qui met en relief la chose suivante. La folie est naturellement attachée à l'enfant. Et il dit, les coups de verge sont ceux qui vont détacher la folie de l'enfant. On vit une génération au sein de laquelle, dans ce domaine, eh bien, on a tout renversé. Alors bien sûr, il y a eu un temps où c'était l'inverse, où il y avait une discipline qui n'en était même pas une, mais qu'il n'y avait que les coups qui comptaient. Mais aujourd'hui, avez-vous vu? Eh bien, il ne faut pas toucher un enfant. Il y a certaines familles où l'enfant est roi, où il y a précisément dans ce domaine un déséquilibre. D'ailleurs, c'est ce qui amène notre société à connaître les mésaventures qu'elle connaît particulièrement dans notre pays, où justement des adolescents sont capables de faire des choses ignobles. On est étonné de voir que des adolescents en arrivent au meurtre, en arrivent à des choses épouvantables. Pourquoi? Bien souvent, les autorités se sont posées les questions. Ils ont dit, mais il y a certainement un manque de responsabilité de la part des parents. Puis, il y a un verset qui se trouve dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 7. Je lis ce verset en entier, parce que pour bien comprendre, il faut le lire en entier. Il est un peu plus long que tous les autres. Il dit, « Mon œil sera sans pitié. » C'est Dieu qui parle. « Et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies et tes abominations seront au milieu de toi. » Et vous saurez que je suis l'Éternel, écoutez la suite, celui qui frappe. Nous, on aime bien entendre celui qui bénit. Et Dieu bénit. Quand il humilie et qu'il frappe, c'est pas pour nous faire du mal. C'est tout simplement pour nous corriger, pour que nous rectifions notre voie, notre manière de nous comporter. Il s'agit ici de la parole de Dieu adressée à Israël, qui a désobéi, qui s'est trouvé en contradiction avec la volonté de Dieu et qui va payer les conséquences. Vous savez, mes frères et sœurs, on ne peut pas échapper à cela. Dieu est miséricordieux, mais il ne tient pas le pécheur pour innocent. Et donc, par conséquent, il peut y avoir les conséquences de nos propres turpitudes, de nos propres erreurs. C'est la raison pour laquelle il nous parle parfois, pour que nous sachions reconnaître. Et quand nous reconnaissons Alors à ce moment-là, il lève sa main, il la lève. Mais si nous ne reconnaissons pas, eh bien, il y a des conséquences. Et la parole de Dieu est claire, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ce verset se trouve dans la Bible. Je suis l'Éternel, celui qui frappe. Et il frappe précisément pour nous amener à comprendre certaines choses. Et après que nous soyons brisés et humiliés, il est capable de relever et il est capable de guérir. À ce moment-là, il nous conduit dans une voie où nous connaissons la victoire. C'est pourquoi j'ai choisi ce passage. Finalement, c'est vraiment ça, la leçon d'un petit enfant. Il a des caractéristiques que le Seigneur nous aide par son esprit à pouvoir imiter dans le bon sens et que nous soyons simples, comme ça, comme un enfant, et fidèles pour mettre en pratique ce que Dieu nous dit. Si nous aimons Dieu, alors obéissons à notre Dieu. Il est notre Père. Que Dieu vous bénisse.